Alors, le but de ce groupe Forum, c'était de. Enfin, plusieurs niveaux. D'abord, il s'appelle Forum, parce que nous sommes intervenus sur la géo-ingénierie, sur les questions du climat au Forum mondial science et démocratie. Par ailleurs, nous pensons que la question de la crise climatique concerne l'AFSC, et j'espère vous convaincre du pourquoi de ça au cours des quelques minutes pendant lesquelles je vais parler. Et enfin, nous passons de la parole aux actes, c'est-à-dire que le groupe Forum de l'AFSC représente l'AFSC au sein de la coalition Climat 21, dont on aura peut-être l'occasion de parler dans la discussion. Alors, moi je pense que vous savez plein de choses, qu'il y a plein de choses que j'ai pas besoin de dire, et j'aimerais bien plutôt privilégier le débat entre nous, plutôt que, alors je déteste être sur une estrade, mais alors si vous saviez ce que ça me... Je vais finir au fond de la salle après. Hein. Donc j'espère qu'on va pouvoir discuter. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, je ne vais pas vous abreuver d'informations sur la crise climatique. Ce que vous voyez évidemment, c'est une température moyenne. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il fait partout sur la planète cette température. Vous savez qu'il existe un grand dicton en statistique qui dit que quand on a les pieds dans un bloc de glace et la tête dans un four à micro-ondes, on bénéficie d'une température moyenne agréable. Voilà, donc il faut l'interpréter un peu comme ça. Ce qui veut dire évidemment que quand vous avez une élévation moyenne de la température sur la planète, ça veut dire qu'il fait très chaud à un certain nombre d'endroits et la température augmente, mais ce qui ne veut pas dire qu'il fait chaud partout de la même manière. Et en particulier, pourquoi il y a crise climatique aujourd'hui ? C'est que cette élévation de la température de la planète est là pour cause et aussi pour conséquence un certain nombre de choses auxquelles on assiste régulièrement. Bah, premièrement, si vous êtes allé dans les Alpes cet été, vous avez vu que l'isotherme de zéro était au-dessus de 5000 mètres. Ce qui veut donc dire qu'au sommet du Mont Blanc, il faisait au-dessus de 0 degré au sommet du Mont Blanc. Ça veut dire que les glaciers de l'Himalaya reculent actuellement à peu près de 80 mètres par an. Vous avez fonte de la banquise. La conséquence primaire de ça, c'est évidemment une élévation du niveau des océans, avec toutes les conséquences que ça a, en particulier pour les peuples insulaires qui sont dans le Pacifique. Un certain nombre d'îles du Pacifique sont vouées à la disparition à cause de l'élévation du niveau de la mer. Vous allez au Bangladesh, c'est exactement la même situation où l'élévation pousse la population d'abord à exiler vers le nord, mais en même temps, l'augmentation du niveau de la mer a pour conséquence aussi une salinisation de la terre et des nappes phréatiques. Ce qui veut donc dire que pour les terres qui ne sont pas inondées, il y a des grosses difficultés évidemment de production agricole. Et donc c'est la sécurité alimentaire de ces peuples qui est aussi menacée. Inutile de vous parler de tous les événements extrêmes qui se sont déroulés sur la planète depuis un certain nombre d'années, en particulier les typhons. Hein, souvenez-vous aux Philippines par exemple, les accidents, répétitions qu'il y a eu avec tous les dégâts sur les Philippines elles-mêmes, mais aussi les dégâts en termes de déplacement de population. L'an dernier, il y a eu plus de 20 millions de déplacés climatiques sur la planète, c'est-à-dire au moins, je crois, deux fois plus que les réfugiés dus à des conflits ou à de la répression. L'ONU prévoit qu'en 2050, les réfugiés climatiques seront de l'ordre de 200 millions sur la planète. Donc je ne vais pas continuer la description de ce à quoi on assiste aujourd'hui pour vous dire que quand on parle de réchauffement climatique, c'est pas pour dans 50 ans, c'est présent aujourd'hui. C'est pas seulement pour les générations futures, mais c'est déjà aujourd'hui qu'une partie de la planète se trouve confrontée à cette crise climatique de manière importante. Alors, il y a des climato-sceptiques qui le nient, bon, ça c'est un autre problème. La question qui se pose, c'est de savoir quelle est l'origine de ce réchauffement climatique. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce réchauffement climatique. Dans le cinquième rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui est paru fin 2013 pour un des premiers rapports, et les deux autres rapports sont parus en 2014, il fait aucun doute aujourd'hui avec une probabilité d'erreur très très faible, que l'élévation de la température moyenne de la planète, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique, premièrement est due à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et deuxièmement, cette augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont essentiellement le produit de l'activité humaine. C'est pour ça qu'on parle de gaz anthropiques, parce que produits pour l'essentiel par les humains. Quand vous regardez les pays qui sont essentiellement les pays émetteurs de dioxyde de carbone, c'est pas le seul gaz à effet de serre, ce sont les pays de l'hémisphère nord et en particulier les pays industrialisés. La deuxième chose, c'est que la concentration est absolument gigantesque et reste gigantesque dans l'hémisphère nord. Il va même se concentrer beaucoup plus vers le pôle nord. Vous avez vu, les nuages marrons sont très énormément concentrés. Alors, les gaz à effet de serre, pourquoi ça réchauffe la planète ? Bah, tout simplement, c'est que s'il n'y avait pas d'atmosphère à la planète Terre, on serait comme un corps noir au milieu de l'univers et la température sur la Terre serait de l'ordre de moins 18 degrés. L'existence de l'atmosphère a permis que la température de la planète soit de l'ordre, en moyenne, s'il n'y avait pas l'intervention humaine, de l'ordre de 15 degrés. Pourquoi ça ? Bah, tout simplement parce que les gaz qui sont dans l'atmosphère, et c'est beaucoup d'ailleurs de la vapeur d'eau, piègent la réémission, où le soleil il éclaire la Terre, les rayons réchauffent la Terre, et la Terre réémet la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. Et quand ces rayonnements infrarouges arrivent dans l'atmosphère, une partie est réfléchie et revient vers la Terre. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Une image qui n'est pas bonne, mais qui vous parle un peu, c'est quand vous mettez une serre dans votre jardin, vous voyez la température qui fait à l'intérieur par rapport à la température extérieure. Cet effet de serre, c'est lui qui a permis l'apparition et l'existence de toutes les formes de vie sur Terre. Il n'y aurait pas cet effet de serre, il n'y aurait pas de vie sur Terre. D'ailleurs, ceux qui quelque part cherche de la vie éventuellement sur une autre planète, c'est d'abord le premier critère, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une atmosphère qui a pu, etc., etc. Alors, pourquoi ça pose un problème aujourd'hui ? Ben, tout simplement parce que un certain nombre de gaz qui sont émis par les activités humaines vont venir augmenter cet effet de serre, et les gaz qui vont augmenter l'effet de serre, c'est d'une part le gaz carbonique qui est émis, d'abord il est déjà émis naturellement par la Terre, mais il est émis aussi par, essentiellement, la consommation des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon, le gaz. D'autres gaz à effet de serre existent, tels que le méthane. Le méthane qui, lui, est essentiellement le produit de l'agriculture. D'autres gaz à effet de serre, c'est le protoxyde d'azote. Protoxyde d'azote qui est, lui aussi, un des résultats de l'agriculture, en particulier le recours aux intrants tels que les engrais, pesticides, etc., augmente ses émissions vers l'atmosphère, et l'atmosphère piège ses émissions. Et donc, on a eu une augmentation de ces gaz, qui sont des gaz à effet de serre à l'intérieur de l'atmosphère, qui provoque évidemment une augmentation de ce qui va revenir comme rayonnement infrarouge sur la Terre, et donc une augmentation de la température de la Terre. Quelles sont les conséquences ? Ça, on les connaît déjà, je vous ai décrit tout à l'heure, et qui fait que si cette concentration augmente de manière importante, on va avoir un réchauffement de plus en plus important en moyenne de la planète. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de réchauffement de la planète, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça réchauffe partout. Il y a des extrêmes climatiques. En termes de température, vous avez une augmentation très importante de la température dans certains endroits du globe. Non seulement l'augmentation importante des pics de température, mais aussi la durée de ces pics de température. Vous avez une augmentation des ouragans, des événements extrêmes du type vent, vagues gigantesques, le tsunami, souvenez-vous, il y a quelques années, etc., qui, eux, leur intensité et leur fréquence sont aussi une des conséquences des émissions du réchauffement de la planète. Je vous ai parlé de la fonte des glaciers, la fonte des glaces, la fonte de la banquise, qui à la fois ont pour conséquence d'augmenter le niveau des océans, mais aussi d'augmenter par rétroaction l'effet de serre. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un glacier, le glacier il est blanc, et tous les rayons lumineux qui arrivent sur le glacier blanc sont réémis sous la même forme et traversent l'atmosphère et sont réémis, vont se perdre quelque part dans les trous sidéraux, etc. Et lorsque vous avez une fonte, c'est-à-dire que lorsque c'est remplacé par de la moraine ou de la terre, ben, ça va absorber, ça va émettre en infrarouge à la place et ça va augmenter l'effet de serre. C'est-à-dire que la fonte des glaciers va augmenter aussi cet effet de serre. Et un phénomène auquel on est confronté depuis quelque temps au niveau des parties supérieures en dessous de la banquise, qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire la terre qui est permanente, en permanence gelée. Le réchauffement, et vous l'avez vu, la concentration en CO2 est beaucoup plus importante aujourd'hui vers le pôle Nord, ce qui veut donc dire que l'effet ressenti du réchauffement climatique va être plus important dans les hautes latitudes que dans les basses latitudes. Et ça va avoir comme conséquence, et on assiste aujourd'hui, à ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire que le permafrost devient fragile, fond, et libère des bulles de méthane qui sont à l'intérieur de la Terre. Ça fait des cratères de 40-50 mètres qui éjectent du méthane. Or, le méthane est lui-même un gaz à effet de serre d'une efficacité beaucoup plus importante et de permanence beaucoup plus importante dans l'atmosphère. Donc voilà la situation. J'ai pas envie d'aller plus longtemps sur cette situation. Ce qui veut donc dire qu'il y a une urgence, qui est une urgence qu'on appelle une urgence climatique. Nous n'avons pas le temps. C'est-à-dire que depuis l'histoire de l'humanité, nous sommes la première génération, la mienne, pas vous, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas exactement le même âge que moi dans la salle, pour qui nous ne pouvons pas garantir pour la génération d'après qu'elle sera dans les conditions normales de vie sur la planète. Vous avez entendu parler des fameux 2 degrés. Il ne faut pas que ça dépasse 2 degrés. Alors le 2 degrés, c'est par rapport à l'ère pré-industrielle. On a déjà bouffé, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 0,6 et 0,8 degrés. Et les projections qu'ont fait les spécialistes du GIEC sur l'évolution du climat ont montré que, d'abord, même si on arrêtait aujourd'hui la totalité des émissions de gaz à effet de serre, ça continuerait à augmenter pour arriver à une décroissance. Le système est tellement inerte qu'il va falloir un certain temps, plusieurs décennies. Mais tel qu'on est parti, c'est-à-dire que pour l'instant, on voit bien que l'ensemble des pays qui émettent les gaz à effet de serre, les pays industrialisés, n'ont pas un comportement qui va dans le sens d'une réduction de ces gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on augmente de plus en plus. Je pourrais vous montrer les cartes d'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, dû à la fois sur les problèmes d'énergie, dû sur l'agriculture, dû sur le transport, etc., etc. Et les projections du GIEC sont pas profondément pessimistes. Ils disent qu'il faudrait pas dépasser 2 degrés pour, grosso modo, encore à peu près contrôler les choses. À 4 degrés, ça devient beaucoup plus important. À 6 degrés, c'est une véritable catastrophe. Et au-dessus, je vous dis pas ce qui peut se passer sur la planète. Or, aujourd'hui, les spécialistes du GIEC disent qu'il ne faudrait pas dépasser les 2 degrés, mais on est plutôt dans le scénario des 4 à 6 degrés aujourd'hui. Avec toutes les conséquences que ça a pour les générations futures, mais dès aujourd'hui déjà, pour une partie de la planète. Je vous ai parlé tout à l'heure des réfugiés climatiques, mais pas que les réfugiés. La sécurité alimentaire de toute une série de populations est menacée. La sécurité sanitaire de ces populations est aussi menacée, et la nôtre aussi, puisque un certain nombre de maladies, grâce au réchauffement, vont pouvoir continuer à monter. Exemple moustique tigre, exemple toute une série de choses, etc., etc. Ce qui veut donc dire qu'on est dans une situation où l'avenir de la planète va dépendre de la capacité de l'humanité à maîtriser cette affaire, c'est-à-dire à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière absolument drastique. Drastique, c'est-à-dire l'objectif, normalement, pour ne pas dépasser les 2 degrés, devrait être une réduction de 40, 50, 70% des gaz à effet de serre des pays développés avant l'année 2030 ou 2040. Or, aujourd'hui, on en est loin de ça. Mais en même temps qu'il faut dire qu'il faut que ceux qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre reconnaissent que les victimes, et quelque part il y a ce qu'on appelle une dette écologique vis-à-vis, ou une dette climatique vis-à-vis de ces pays, qui eux sont victimes aujourd'hui, ont besoin d'aide aujourd'hui, d'ores et déjà, mais il faut aussi leur reconnaître le droit de pouvoir se développer. Et donc les restrictions d'émissions de gaz à effet de serre, les sacrifices qu'il va falloir faire, ne peuvent pas être égaux sur la planète. Nous aurons, nous, à faire beaucoup plus d'efforts que les autres parce que c'est une question de justice sociale et de justice climatique. Et on est mal parti pour ça. Les différentes conférences internationales qui s'appellent les COP, Conference of Parties, dont la prochaine va se tenir à Paris, la COP21, sont d'ores et déjà, on est à peu près sûr que d'abord la négociatrice pour la France a dit on ne pourra pas atteindre l'objectif des 2 degrés. Donc quand un pays commence à négocier comme ça, on voit exactement sur quoi ça allait. La dernière conférence qui était importante, qui était la conférence de Copenhague, il n'est rien ressorti de cette conférence. Et le fait que de conférence en conférence et de négociation en négociation, il n'y a pas d'issue dans le sens de prendre à bras-le-corps l'affaire des réductions des gaz à effet de serre, eh bien là se pose un problème. Le plan qu'il faudrait appliquer, c'est grosso modo changer de logiciel sur la planète. Une transition énergétique qui fait qu'on utilise ou qu'on condamne l'utilisation des gaz à effet de serre provoqués par les énergies fossiles. Ce qui a des conséquences sur la mobilité, sur l'énergie. Ça veut dire que l'agriculture ne peut pas fonctionner de la même manière. Et donc quand on dit réduire les gaz à effet de serre, ça veut dire qu'il va falloir que le mode de vie, le mode de fonctionnement, le mode de production qui existe sur la planète change totalement. Et ces fameux mythes de la croissance qui est soi-disant pour régler tous les problèmes de la planète, eh ben, la croissance c'est pas la solution, mais c'est aujourd'hui le problème pour la totalité de la planète. Mais face à une incapacité de pouvoir mettre en œuvre une politique qui sauverait l'humanité de toute une série de catastrophes, eh bien l'idée peut commencer à émerger de dire « et si on mettait en place un plan B ?» C'est-à-dire que comme on n'est pas capable de mettre en œuvre une politique efficace, eh bien peut-être qu'on peut faire en sorte d'appliquer quelque chose qui nous permettrait de diminuer les effets du réchauffement climatique. Et c'est là qu'arrive la géo-ingénierie. Il y a deux façons. La géo-ingénierie, on va essayer de la définir comme une intervention massive et technologique sur la totalité de la planète pour contrer les effets du réchauffement climatique. Donc d'entrée, c'est une question de technologie. Et pour nous, la FSC, on caractérisera plutôt ça sous la forme de technosciences, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut restreindre dans le cadre d'un plan B? Vous remarquerez que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce plan B, évidemment. Mais dans l'incapacité de résoudre le plan A, eh bien, on va commencer à nous dire qu'il va falloir, dans l'urgence, prendre un certain nombre de mesures techniques qui nous permettent d'attendre que la science trouve les moyens de résoudre le problème. Et donc, c'est ça la géo-ingénierie qu'on va essayer d'appliquer, y compris parmi des climatologues, pas forcément des salauds, même honnêtes. Ils disent, puisque les gouvernants sont incapables aujourd'hui de faire leur boulot, eh bien nous, les scientifiques, on va vous proposer le plan B en question. Alors le plan B de la géo-ingénierie, alors ça fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a des tas de trucs qui sont des fantasmes de la science-fiction et puis d'autres qui ne sont pas tout à fait de la science-fiction. Alors il y a deux méthodes pour essayer de contrer le réchauffement climatique globalement. La première méthode, puisque c'est les rayons du soleil qui chauffent la Terre, c'est de diminuer la quantité de rayons du soleil qui arrivent sur la Terre. C'est ce qu'on appelle la gestion du rayonnement solaire. Deuxième méthode, c'est passer l'aspirateur dans l'atmosphère, c'est-à-dire le nettoyer des gaz à effet de serre et après de les stocker quelque part dans les océans ou sous la Terre, donc de capter ces effets de serre. Vous allez voir ce que je vais en parler, ça s'appelle la captation et la séquestration du carbone. Alors, il faut savoir que les idées de la géo-ingénierie, ça n'arrive pas de maintenant. Ça a existé déjà depuis un certain temps, en particulier à des raisons militaires. Par exemple, les Américains ont pensé à utiliser des techniques de géo-ingénierie pendant la guerre du Vietnam pour faire pleuvoir, déclencher des tempêtes gigantesques sur la piste Ho Chi Minh pour éviter que les Vietnamiens puissent acheminer leur matériel au Sud-Vietnam. Ça a été utilisé aussi comme projet pour dire, dans le cadre de la guerre qui pouvait exister entre deux blocs ou contre des pays, l'arme de l'alimentation, qui peut être contrôlée par un contrôle du climat, peut être importante, par exemple, de provoquer des zones de sécheresse ou des zones d'inondation sur un certain nombre de choses. Les effets n'ont pas été grandioses de ces choses-là, mais c'était déjà dans les têtes et dans les circuits. Et là, maintenant, pour des raisons d'urgence, on commence à nous ressortir ce qu'on peut faire. Alors comment résoudre ce problème? Alors, parmi les choses qui sont les moins rêveuses, enfin rêveuses, science-fiction, disons, gérer le rayonnement solaire, il y a plusieurs façons. Je vous ai parlé tout à l'heure des trucs qui étaient blancs. Le blanc permet, c'est ce qu'on appelle l'effet d'albédo, ça réfléchit et ça réchauffe pas. Par contre, il y a un certain nombre de gens qui disent, bon, on va peindre les maisons en blanc. Ou, puisque les glaciers de la cordillère des Andes ont quasiment tous disparu, on va balancer de la chaux, mettre des grillages dessus, etc., pour peindre en blanc, quelque part, les montagnes, pour réfléchir la lumière, plutôt que d'avoir de l'infrarouge. Bon, ça, c'est pas très sérieux, évidemment. Et puis, il y a une autre méthode, grâce aux éruptions volcaniques. Il y a un volcan gigantesque aux Philippines, qui s'appelait le Pinatubo, qui avait, je crois que c'était à la fin du 19e, une immense éruption volcanique qui a balancé dans la stratosphère, dans les hautes couches de l'atmosphère, une quantité gigantesque de particules de soufre qui se sont répandues au niveau autour de la planète, et ça a provoqué au cours de l'année une baisse de la température quasiment de 1 degré sur la planète. Tilt. Pourquoi on ne ferait pas un plan B qui s'appellera l'effet Pinatubo? Donc de remplacer un volcan par des avions qui décollent et qui vont déverser dans la stratosphère des molécules de soufre de façon à provoquer cette enveloppe de soufre au-dessus de la planète de façon à bien rediffuser les rayons et diminuer la quantité de rayonnement solaire qui arrive sur la planète. Ça, c'est une des idées qui, de leur point de vue, est réalisable demain, à condition d'y mettre les moyens. Mais vous vous rendrez compte, évidemment, qu'une idée comme celle-ci, c'est été profondément décrit par nous au cours de ces journées. Ce sont des idées de technoscience, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas l'effet que ça peut avoir en termes de déclenchement de régions de sécheresse, en termes, imaginez, le ciel de Trescléou gris. Maintenant, il n'y a plus de ciel bleu, donc fini, hein, etc., etc. Et puis surtout, c'est que l'effet ne sera pas le même selon l'endroit où on aura déversé le soufre dans la stratosphère. Et donc, évidemment, il y a un problème de choix. Mais le problème de choix, ça va impliquer que le réchauffement ou le refroidissement ne va pas concerner toutes les parties de la planète. Donc, qui sait qui va détenir le thermostat et qui va choisir à quel endroit il faut faire des choses, puisque selon le choix qu'on va faire, ça va foutre dans la merde les copains d'à côté. Donc, vous voyez que si on se lance à l'aveugle dans ce type de choses, les conséquences sur la planète peuvent être excessivement dramatiques. Et le problème, contrairement aux OGM, c'est que là, on ne peut pas faire d'expérimentation en laboratoire. On ne peut pas faire un mini-laboratoire avec une mini-terre, puis regarder comment ça pourrait fonctionner. Il faut d'entrée passer en grandeur réelle, c'est-à-dire prendre la planète complète comme un laboratoire et expérimenter tout de suite, sans aucune maîtrise de ce que ça veut dire derrière. Et c'est pour ça que nous, à la FSC, nous remettons en cause ces techniques, parce que ce n'est pas seulement que le principe de précaution, c'est qu'on ne connaît rien sur les conséquences que ça pourrait avoir, sur les générations futures, sur toute une série de choses, parce que faut dire aujourd'hui que la science du climat, même si elle a fait beaucoup de progrès, est quand même encore des résultats très hasardeux. Alors ça, c'est un des effets. Alors il y a des effets encore plus pour maîtriser le rayonnement solaire, qui consiste à balancer dans la haute stratosphère des mini-miroirs pour réfléchir les rayons du soleil, sous forme de micro-particules, etc. Et dans chacune de ces solutions, à aucun moment on envisage les conséquences que ça peut avoir. Mais deuxièmement, le coût économique, le coût technologique, le coût en énergie correspondant. Parce qu'envoyer du soufre dans l'atmosphère, c'est bien, mais enfin, il faut l'emmener là-haut. Donc il faut équiper des avions pleins de machins qu'on va déverser à l'atmosphère, ils reviennent, on décolle, etc. Et donc c'est un gaspillage énergétique pour arriver à un effet qui est sans doute moins important que si on prenait les décisions sur les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième technique qui consiste à dire on va nettoyer l'atmosphère. Alors, nettoyer l'atmosphère, c'est essayer de retirer de l'atmosphère ces fameux gaz à effet de serre, c'est-à-dire le CO2 en particulier. Comment on peut faire pour retirer le CO2? Alors il y a plusieurs méthodes. On se sert des cycles biologiques qui existent sur la planète. Le carbone qui est contenu dans le CO2, il a ce qu'on appelle un cycle, le cycle du carbone, qui fait qu'il y a des échanges en permanence entre l'atmosphère et les océans, entre les océans et la Terre, entre la Terre et ce qui est vivant, ce qu'on appelle la biosphère, entre l'atmosphère et la biosphère, par exemple, la photosynthèse des plantes est capable de capter une partie du carbone. Et donc on se dit, si on pouvait jouer sur le cycle du carbone, alors on arriverait à capter ce CO2 qui est dans l'atmosphère. Or, l'endroit où c'est le plus efficace, ce sont les océans. Donc comment augmenter la quantité de carbone captée par l'océan ? Là, la deuxième idée qui germe, c'est de dire, eh bien, on va fertiliser les océans, c'est-à-dire déverser dans l'océan un certain nombre de particules de fer qui vont augmenter l'activité du phytoplancton, qui va se développer beaucoup plus de manière beaucoup plus importante, et c'est le phytoplancton qui va capter le CO2 qui est contenu dans l'atmosphère et qui va, après, l'enfouir, le descendre très lentement au fond des océans. Quand on fait ça, on se dit, chouette, une bonne solution. Le problème, c'est que ça a été expérimenté sans que personne le sache dans l'océan Indien. La première conséquence, c'est que ça a marché, mais dès qu'on arrête, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet durable. Il faut le faire sans arrêt, sans arrêt. Alors imaginez qu'il faut ensemencer l'océan avec des particules de fer. Il faut l'extraire, le fer, il faut le transporter, il faut le balancer dans l'océan. Et puis peut-être un peu maîtriser aussi les conséquences que ça peut avoir. Parce qu'augmenter la quantité de CO2 dans les océans, c'est augmenter sa possibilité de se transformer en acide carbonique, c'est-à-dire provoquer l'acidification des océans. Or, aujourd'hui, on connaît les conséquences de l'acidification des océans sur, par exemple, les coraux, mais les Africains le voient bien. Avec le réchauffement climatique aujourd'hui, l'acidification des océans qui commence à se faire sentir, et bien, par exemple, les poissons recherchent à la fois des eaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes, ils recherchent une température qui soit plus agréable pour eux pour pouvoir vivre, et donc commencent à émigrer vers les pôles. Et les populations africaines qui vivent de la pêche, aujourd'hui, ne trouvent plus de poissons aux alentours, et il n'y a pas d'espèce alternative qui a eu le temps de se développer. Parce que ce qui caractérise aujourd'hui l'effet climatique, c'est qu'il y a déjà eu sur Terre des crises climatiques. Mais ça s'est passé sur des centaines de milliers d'années ou sur des millions d'années, et les espèces avaient le temps d'évoluer, avaient le temps de se déplacer, avaient le temps de muter pour s'adapter à ce réchauffement ou à ce refroidissement. Mais là, tout est concentré dans un espace de temps de quelques dizaines d'années, l'augmentation gigantesque, et là, les espèces ne sont pas en capacité de pouvoir s'adapter relativement rapidement. Un certain nombre de gens prévoient, par exemple, qu'on va vers une nouvelle extinction des espèces à cause de ça. Rassurez-vous, l'espèce humaine en fait partie. Oui, parce que il faut regarder. Il ne s'agit pas de jouer aux catastrophistes, mais il s'agit de regarder le problème en face. Et c'est justement un des arguments de ceux qui nous proposent les techniques de géo-ingénierie. Alors, je ne vais pas vous les décrire toutes. Si vous voulez qu'on revienne dans le débat dessus, on le fera. Mais utilise cet argument de l'urgence pour dire il n'est plus la peine aujourd'hui de mettre en avant un principe qui est le principe de précaution parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Et comme on n'a pas le temps aujourd'hui, eh bien, faut prendre le risque. On fait le coût, risque, rapport entre les risques et puis les bénéfices. Et si on fait ça, si on balance le soufre dans la stratosphère, on va gagner un certain nombre d'années qui vont nous permettre, du point de vue de la science, de trouver les moyens d'essayer de résoudre le problème de la crise climatique. Donc c'est une fuite en avant, parce que cette fuite en avant, en fait, il y a deux choses qui sont derrière. Elle ne remet pas en cause le mythe de la croissance et la consommation des énergies fossiles. Même d'ailleurs, on cherche à augmenter la consommation des énergies fossiles, exemple les gaz de schiste. Quand on entend les compagnies pétrolières se réjouir de la fonte de la banquise, parce qu'on va enfin pouvoir gagner d'abord en transport et deuxièmement exploiter le pétrole qui est enfoui sous la banquise. Aujourd'hui, les méthodes de géo-ingénierie vont dans le sens de continuer le même modèle aujourd'hui de fonctionnement de la planète. On a un mur en face de nous et on accélère à fond et on réaccélère. Suzanne George dans son... Geneviève Azam, dans son dernier livre « Osons rester humains », décrit la situation comme un cycliste qui est devenu fou, qui risque de tomber à tout moment, et pour pas tomber, eh ben, il accélère, il pédale de plus en plus vite, de plus en plus vite, et c'est un peu la situation dans laquelle on est. Alors face à ça, comment est-ce qu'il faut qu'on réagisse? Eh bien, c'est la préparation justement du contre-sommet qui va avoir lieu à Paris à la fin de l'année, qui s'appelle grâce à la coalition Climat 21, dont je vous dis simplement deux mots, c'est que c'est la première fois dans ma vie de militant. Elle est un peu longue, plus de 150 ONG en France ont été capables de se réunir pour préparer ensemble justement ce contre-sommet, où vous avez des militants associatifs, des syndicats, des activistes, des non-activistes, des protestants, des catholiques. Bon, je vous fais pas la liste de tout ce que j'ai vu, parce que moi j'étais vraiment, vraiment, vraiment impressionné par ce qui se passait. Pourquoi ? Parce que les gens ont pris une conscience aujourd'hui dans le milieu associatif que on ne peut pas faire confiance aujourd'hui à ceux qui nous dirigent, et que deuxièmement, il s'agit pas de trouver les moyens de continuer comme avant en trouvant les subterfuges, mais que c'est pas le climat qu'il faut changer, mais c'est le système. Merci.